Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, la montée dans les sondages d'Édouard Philippe et la descente d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui accuse désormais 11 points de retard d'opinion favorable par rapport à son Premier ministre. Et Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui en Turquie pour participer à un sommet sur l'avenir de la Syrie, l'occasion pour le président de la République de retrouver la chancelière allemande. De politique et de politique européenne, il ne manquera pas d'en être question à 8h20, Eric, en compagnie de votre invité, Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, le président de Debout la France, une députée de l'Essonne également. Oui, les européennes. Question aussi sur la sécurité en France en ce moment. Vos questions ce matin à Nicolas Dupont-Aignan. C'est dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, les conséquences sur la route du passage de l'heure d'été en heure d'hiver. Ce sera la nuit prochaine. Et enfin à 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard.
France Inter.
L'un monte pendant que l'autre descend dans les sondages. Selon une enquête d'opinion BVA publiée hier, Emmanuel Macron ne recueillerait que 29% de bonnes opinions contre 40% d'opinions positives pour son Premier ministre Édouard Philippe. Une belle cote de popularité donc pour le chef du gouvernement, en dépit de réformes souvent délicates et en tout cas mal reçues. Un capital sympathie qu'Édouard Philippe, en déplacement hier en Lozère pour les commémorations du 14-18, a encore pu vérifier. Reportage d'Adrien Toffoli.
Accueilli par des sourires.
Bonjour madame.
Bonjour.
Édouard Philippe, déjà très à l'aise dans l'exercice du bain de foule, peut compter sur les enfants pour s'assurer les sympathies.
T'as quel âge ? 6
ans.
T'es très grand pour 6 ans.
Mon papa, il fait 2 mètres.
Ah, c'est... Et mon papa, il fait 2 mètres, il dit. Bah, t'es bien parti.
Pratique, les mécontents sont rarement les écoliers. Entre deux poignées de main gentilles, nombreux sont ceux qui critiquent la politique gouvernementale. D'abord, une infirmière l'interpelle.
Faut je tenir sais compte que c'est un métier de la pénibilité, parce que ça fait 20 ans que je travaille de nuit.
Ouais.
Pas beaucoup à la fin du mois, j'ai une vraie passion pour le service public, ouais. Mais pensez à nous quand même.
Mais comme souvent depuis 10 mois, les plus critiques sont les retraités.
On va attaquer ça.
Joli lapsus, mais pas déstabilisé, le Premier ministre défend la hausse de la CSG et promet que les choses s'arrangeront avec la future réforme des retraites.
Moi, j'ai perdu énormément d'argent cette année. Bah, j'ai une bonne retraite.
Vous avez une bonne retraite?
Ouais. Je bénéficie de rien. Que
dans 3 ans, on aura terminé la suppression même de la taxe d'habitation, donc vous en profiterez à ce moment-là. Allez, je sais, mais ça vient. Merci monsieur en tout cas pour votre accueil.
Pas de quoi convaincre, mais au moins l'impression laissée est bonne. On est très loin du style présidentiel, très rentre-dedans, et qui voit Emmanuel Macron d'être catalogué comme arrogant. Avec Édouard Philippe, c'est franc, simple et courtois. La fameuse bienveillance macroniste, c'est peut-être lui qui l'incarne le mieux.
Adrien Toffoli en Lozère. Jean-Luc Mélenchon, sans ambiguïté, dans une interview accordée au quotidien régional La Provence de ce samedi, le chef de file de la France Insoumise accuse directement le chef de l'État d'être à l'origine des perquisitions qui ont visé son parti la semaine dernière. Le coupable de ce coup monté est à l'Élysée, dénonce ainsi le député de Marseille.
Emmanuel Macron, qui justement après son voyage à Prague, va s'envoler dans la journée pour Istanbul, où va se tenir cet après-midi un sommet sur la Syrie.
Oui, sommet qui va réunir autour de la même table la France, donc, mais aussi l'Allemagne, la Russie et la Turquie. Une rencontre inédite après 7 ans de guerre et quelques 350 000 morts, avec autour de cette table eh bien, les acteurs de 2 diplomaties parallèles. En ligne de Beyrouth, notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
D'un côté, la France et l'Allemagne, qui ont besoin de revenir au cœur des négociations dont elles ont été écartées avec l'ONU. Double objectif donc à Istanbul, sanctuariser d'une part le cessez-le-feu dans la dernière province rebelle d'Idlib, en soutenant le président turc, qui en est l'un des architectes, faire avancer d'autre part le processus politique, autrement dit les négociations de paix, en mettant en place un comité constitutionnel chargé de travailler sur un nouveau texte fondamental pour la Syrie. De l'autre côté, la Russie et la Turquie, qui sont-elles dans le processus de paix d'Astana, piloté par Moscou, avec d'une part une Turquie qui attend des Européens qui lâchent les Kurdes de Syrie, sa bête noire, et qui l'aide à peser face à l'ogre russe, allié de Damas, quand elle soutient les rebelles à Idlib. Avec une Russie, d'autre part, qui a besoin des Européens pour la reconstruction et qui ne veut pas se retrouver seule avec l'Iran, l'autre allié du régime syrien. Un régime qui continue, lui, de déclarer que le cessez-le-feu à Idlib est provisoire et qui rejette encore la composition du comité constitutionnel proposé par l'ONU avec l'aval des Occidentaux. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Aux États-Unis, la police a arrêté hier en Floride un sympathisant pro-Trump aux antécédents judiciaires plutôt fournis, César Sayoc, c'est son nom, est soupçonné d'avoir envoyé pas moins de 14 bombes artisanales à des personnalités opposées à la politique de Donald Trump. Ce suspect risque, selon le ministère de la Justice, et s'il est avéré coupable, bien sûr, 48 ans de prison.
La situation est toujours aussi tendue à Saint-Saulve, dans le Nord, autour du site d'Ascoval.
Ascoval, c'est cette aciérie mise en difficulté depuis la liquidation judiciaire prononcée contre son principal principal actionnaire en février dernier. En attendant que le groupe franco-belge Altifort, repreneur potentiel du site, complète son plan commercial et financier à la demande du gouvernement français, les salariés d'Ascoval, très inquiets sur leur avenir, restent mobilisés sur place après avoir bloqué hier le site de Valbourec, autre actionnaire de l'entreprise. Les précisions de Bruno Kozinski, le porte-parole de l'intersyndicale, joint au téléphone par Philippe Randy.
On ne lâchera rien, mais on lâchera vraiment rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont résignés à aller jusqu'au bout. Les enfants sont avec nous, les épouses sont avec nous, les maris de nos collègues sont avec nous. Et puis, on a prévu de passer le week-end tous en famille sur place. On est très bien, on a un accueil exceptionnel, puisque on a tous les commerces du coin, les bénévoles qui font en sorte qu'on soit approvisionnés. Hein, des dons de nourriture, des dons d'argent, des dons de boissons, c'est incroyable. Moi, personnellement, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance dans la façon dont le gouvernement mène cette histoire, parce que ça fait un peu trop de temps qu'on entend n'importe quoi. On ne peut pas admettre qu'un gouvernement censé représenter les citoyens de son pays joue avec la vie de salariés d'entreprise comme s'il jouait avec des boîtes de conserve dans un rayon de grand magasin.
C'est le 7 novembre prochain que le tribunal de grande instance de Strasbourg statuera sur le sort de cette aciérie.
Ça se passe en ce moment à Bobigny, devant la cour d'assises. Le procès de l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique et maire de Draveil, Georges Tron, et de son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel.
Tous deux renvoyés devant la justice pour agression sexuelle et viol en réunion sur deux anciennes employées de la mairie de Draveil. La cour d'assises de Bobigny a donc commencé hier à entendre les premiers témoignages, ceux de deux femmes consentantes, des témoignages plutôt crus mais indispensables au débat. Compte rendu d'audience, Corinne Audouin.
Cyril a les cheveux châtains courts, l'allure décidée, elle a 50 ans. Christelle est menue, blonde, elle a 42 ans. Toutes deux disent avoir entretenu une relation consentie avec Georges Tron alors qu'elles travaillaient à la mairie de Draveil. Cyril raconte une séance de sexe à trois dans le bureau du maire avec Georges Tron et son adjointe Brigitte Gruel. C'était tout à fait consenti, dit-elle. C'était à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Christelle, elle, parle d'idylle, de sentiments, collaboratrice de Georges Tron à partir de 2005. Il était prévenant, à l'écoute, je l'aimais beaucoup, confie-t-elle. Il y a eu des baisers, des caresses poussées, ce n'était pas vraiment une relation sexuelle, mais un flirt arrêté au bout de 2 ans. Ces histoires d'alcôve entre adultes consentants ne devraient regarder que leurs protagonistes, sauf que Georges Tron et Brigitte Gruel nient depuis 7 ans l'existence même de la moindre relation sexuelle avec ces femmes, dont les récits ressemblent à ceux des plaignantes, des dénégations en bloc qui risque d'être de plus en plus difficile à tenir, car d'autres femmes sont appelées à témoigner dans les semaines qui viennent.
Allez, nous allons passer une information très importante et qui nous concerne tous, le passage la nuit prochaine de l'heure d'été à l'heure d'hiver, un passage qui sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier, sachant que la Commission européenne suggère aux pays membres de supprimer ce changement d'heure. Alors quoi qu'il en soit, la nuit prochaine, vous allez pouvoir faire la fête, une heure de plus, ou bien passer cette heure supplémentaire sous la couette, mais attention, ce passage est souvent brutal, surtout sur la route. Il va en effet faire nuit plus tôt, ce qui n'est pas sans représenter un danger pour les piétons et les cyclistes. Il faut savoir que l'on recense chaque année, entre octobre et novembre, une augmentation de 47% des accidents corporels pour la seule tranche horaire de 17 à 19 heures. Un phénomène très sensible en montagne, notamment. Christophe Van Ven de France Bleu, Pays de Savoie.
On avance d'une... Non, attendez, on perd.
C'est le côté obscur de la force. Le changement d'heure éteint la lumière du jour bien plus tôt.
Le changement d'heure, c'est radical, donc c'est sûr que c'est dès qu'on sort du boulot, quoi.
À partir de 17h30, on verra plus grand monde. Hein,
et... À force de se voir, on ne se voyait plus.
Et c'est bien ça le problème. Il faut
voir et être vu.
Solange Millon-Rousseau, directrice de la prévention routière en Savoie.
Déjà, on va avoir plus froid, donc on va être recroquevillé, on va regarder par terre, on va moins regarder autour de soi. Quand on est piéton, s'habiller avec des vêtements clairs. Tard le soir, c'est le gilet haute visibilité. Hein. Et puis surtout, nous, on travaille beaucoup au niveau des enfants. Hein.
Je me rends compte dès la première semaine que les premiers vélos sont mal éclairés.
David, cycliste et responsable du Cyclolab de Chambéry, atelier et magasin de vélos.
On n'a peut-être pas forcément anticipé. Enfin, déjà, c'est une chasuble, c'est des vêtements jaunes, voyants, brillants et réfléchissants. Quand il n'y a plus d'éclairage urbain, là, il vous faut les lampes sur les vélos.
Ça coûte pas très cher et ça sauve vraiment des vies.
Cherche un peu de lumière.
Changement d'heure donc et changement de temps, nous dira dans quelques instants Jean-Michel Golinski. Mais rassurez-vous, pas de changement de voix sur France Inter, puisque vous trouvez Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.